Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! Bonjour à tous! Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Communautaire. Alors, après quelques épisodes consacrés à la conception de mode responsable, parlons maintenant de mode circulaire avec Redonner, la solution digitale pour collecter, recycler et récompenser les dons de textiles. Aujourd'hui, j'accueille Philippine Lucas, responsable marketing et communication de Redonner. Bonjour Philippine, tu vas bien ?
Bonjour Pauline, très bien. Et toi ?
Ben, très très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de mode circulaire et solidaire, de collecte et de recyclage, mais aussi de consommateur. Allez Philippine, je te laisse la parole et parle-nous de Redonner.
Oui, bah alors du coup, Redonner, c'est une solution qui a été créée il y a un an et demi maintenant par Alexis et Valentine, les deux cofondateurs. Et tout est parti ils faisaient un tri dans leur placard pour donner les vêtements de leurs enfants. Ils ne savaient pas quoi en faire, ils ne savaient pas où les donner. Du coup, ils se sont un peu intéressés à ce sujet des textiles en fin de vie. Ils se sont rendus compte que voilà, aujourd'hui, très peu de personnes savent quoi faire de leurs textiles en fin de vie, encore plus quand ils sont en mauvais état. Et du coup, ils ont créé Redonner, qui est en fait une solution pour donner ses vêtements dans les points de collecte qui existent en France et être récompensés avec des bons de réduction chez plein de marques de mode super sympas et engagées.
Alors les bornes, elles sont déjà existantes, comme tu viens de le mentionner. Du coup, ce ne sont pas des bornes que vous avez du tout en propre, mais vous utilisez un réseau de bornes qui sont déjà en place.
Exactement, c'est ça. En fait, il y a une filière qui existe déjà en France aujourd'hui, qui compte 500 associations et entreprises comme Le Relais, Emmaüs et plein d'autres moins connues. Et nous, du coup, on s'est greffé à cette filière qui existe déjà. Ça nous permet en fait de pouvoir couvrir tout le territoire. Là, aujourd'hui, on compte 40 000 points de collecte. Donc a priori, il y a forcément un point de collecte à côté de chez soi.
D'accord. Et alors, tu dis qu'on peut tout donner, parce que tu parlais tout à l'heure de vêtements qui étaient peut-être usagés ou en pas trop bon état, enfin, sont ceux d'ailleurs qu'on n'a pas forcément envie de revendre. Mais j'avais quand même le sentiment que certaines bornes avaient, puisque du coup, il y a différents organismes qui gèrent les bornes, ce n'est pas uniquement géré par tout par le relais, même si je crois qu'ils détiennent deux tiers des points de collecte. Il y a quand même certaines bornes qui imposent certains critères différents ou non ?
Oui, bah alors en fait, après dans tous les conteneurs, pour le coup, on peut mettre tout ce qu'on veut. Ça, c'est les bennes de collecte qui sont dans la rue. Là, on peut mettre absolument tous les vêtements, même s'ils sont troués, même s'ils sont déchirés. L'important, c'est seulement qu'ils soient propres et qu'ils soient pas mouillés ou humides, sinon ils vont moisir en fait dans la benne de collecte avant d'être récupérés. Après, c'est vrai que les associations comme la Croix-Rouge, le Secours Populaire ou encore Emmaüs, eux, ils ont tendance à vouloir récupérer plutôt des vêtements qui sont en bon état et qui peuvent être revendus parce que c'est ça en fait leur business model. Donc eux vont accepter que ces vêtements-là. En revanche, dans les conteneurs, on peut vraiment tout donner. Et le but, c'est de dire, voilà, il n'y a aucun textile qui mérite aujourd'hui de terminer à la poubelle. Ils peuvent tous avoir une seconde vie, que ce soit réutilisé, que ce soit recyclé, que ce soit revalorisé en énergie. Ils peuvent tous intégrer cette filière-là et du coup, être dans la benne de collecte plutôt qu'être jeté.
Et alors, parlons-nous justement de ces textiles qui sont récupérés dans ces bornes de collecte. Qu'est-ce qu'ils deviennent et est-ce qu'ils sont vraiment 100% ceux qui sont recyclés ? Alors, est-ce qu'ils sont recyclés à 100%?
Oui, bah alors du coup, il y a un peu trois filières de revalorisation des textiles. Et aujourd'hui, la filière du tri et du recyclage, qui regroupe donc les 500 associations et entreprises avec lesquelles on travaille tous main dans la main, de sorte que je crois que c'est 99,7% des textiles qui vont pouvoir être vraiment revalorisés. Donc, il n'y en a vraiment aucun qui vont terminer à la poubelle après avoir été mis dans un conteneur. La majorité, ils vont être du coup revendus dans des acteurs de seconde main, dans des friperies. Ça, c'est pour à peu près 57% des textiles. Ensuite, il y en a 38% qui, eux, vont être recyclés. Dans le recyclage, en fait, il y a plein de choses. Il y a évidemment défaire la matière, la refiler pour du coup pouvoir refaire des nouveaux vêtements. Mais il y a aussi transformer, par exemple, en chiffon industriel, créer de l'isolant, créer du feutre ou d'autres matières pour la construction automobile, par exemple. Et la dernière catégorie, qui représente à peu près 8% des textiles, elle va être transformée en ce qu'on appelle du CSR, combustible solide de récupération. En fait, c'est des petites briques comme des petits charbons qui après vont être utilisés dans les usines pour chauffer les fours, créer de l'énergie, faire tourner les machines. Donc voilà, cette filière fonctionne de sorte que, qu'importe l'état des vêtements, il va pouvoir avoir une seconde vie.
Et tous les vêtements peuvent être recyclés parce que il y a des vêtements qui sont éco-conçus, qui sont déjà fabriqués à partir de vêtements, à partir de matières recyclées. Est-ce que ces matières recyclées peuvent être également recyclables?
Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, plus un vêtement est bien conçu, plus il va être facile à recycler. Par exemple, aujourd'hui, une filière qui marche hyper bien, c'est le recyclage en isolant, qui se fait qu'à partir du 100% coton. Donc ça, que ce soit une fibre recyclée avant ou du 100% coton non recyclé, ça fonctionne aussi. Mais plus le vêtement va être bien conçu, plus il va être facile à recycler, tout simplement parce qu'il n'y aura qu'une fibre en fait, de textile dedans. Et du coup, c'est facile à défiler et ensuite à recycler. À l'inverse des vêtements du coup plutôt de fast fashion qui vont comporter du coton, du polyester, du nylon, du polyamide, etc., qui sont du coup quand même beaucoup plus difficiles à recycler aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne sait pas encore sortir toutes les fibres pour du coup le recycler, mais du coup ceux-là vont être revendus en priorité et sinon du coup ils vont pouvoir être transformés en combustible, comme j'en parlais tout à l'heure.
Et concrètement, alors pour donner, comment ça fonctionne? Parce que du coup, on a échangé pour préparer cet entretien. Ça m'a carrément motivée, j'ai préparé un énorme sac et j'ai vidé je ne sais pas combien de vêtements de mon placard. Concrètement, qu'est-ce que je fais de mon sac et comment ça fonctionne pour ensuite obtenir ces points de récompense? Parce que c'est un peu le principe de fonctionnement de redonner.
Oui, c'est ça. Alors nous, du coup, on a créé donc une carte où on cartographie donc tous les points de collecte en France. Donc là, aujourd'hui, on en compte 40 000. Du coup, il suffit de se rendre sur notre site redonner.fr et sur la carte, taper son adresse pour trouver du coup les points de collecte près de chez soi. Et ensuite, tu te rends au point de collecte. Et là, ce qu'on te demande, c'est de prendre en photo ton sac du coup devant le point de collecte et de nous l'envoyer à redonner@redonner.fr pour que nous, en fait, simplement, on vérifie que tu as bien déposé ton don et qu'on puisse le valider, et à ce moment-là, on crédite ton compte de ce qu'on appelle des points RE, qui sont un peu notre monnaie d'échange de redonner, donc on t'en donne 50, et ces 50 points RE, tu peux les échanger contre un bon de réduction chez une de nos marques partenaires. On en a 90 aujourd'hui, donc vraiment à choisir si tu préfères une marque de lingerie, une marque de vêtements.
Et alors, on peut, c'est un système qui repose sur la confiance.
Exactement, ça repose assez sur la confiance dans le sens où c'est vrai que tu nous envoies une photo. Après, on regarde vraiment toutes les photos avec nos propres yeux. Donc, si demain, tu m'envoies trois fois la même photo, on va s'en rendre compte assez vite. Et aussi, on compte sur le fait qu'a priori, personne n'a vraiment la motivation de se déplacer jusqu'au point de collecte avec un faux sac, de le prendre en photo juste pour récupérer un bon de remise. Et en fait, c'est jamais arrivé pour l'instant d'être riche. Mais ça repose vraiment sur la confiance et de se dire, voilà, aujourd'hui, tu as envie d'agir pour la planète, t'as envie de consommer de manière plus responsable et du coup tu le fais vraiment et tu fais pas, t'essayes pas de tricher quoi.
Et dans ce sac, c'est un nombre de récompenses par sac, peu importe si dans le sac qu'on dépose dans la benne il y a un vêtement, 10 vêtements ou 50 vêtements.
Oui, c'est ça. Bah alors, effectivement, si quelqu'un te donne juste une chaussette, on va lui dire, attends, donne pas juste une chaussette. Je suis sûre que tu as d'autres vêtements dans ton placard que tu peux donner. Mais sinon, en fait, qu'importe la taille du don, on va toujours récompenser avec 50 points dans le sens où nous, ce qu'on récompense, en fait, c'est l'acte.
C'est l'acte, ouais.
Ouais, c'est ça, d'avoir trié son placard, d'avoir donné ses vêtements et d'avoir pris cette nouvelle habitude. Et pas forcément, voilà, tu as donné telle marque qui est mieux que telle marque ou plus de vêtements ou moins de vêtements, parce qu'on ne veut pas non plus pousser derrière à la surconsommation où tu donnes 50 vêtements, tu récupères 500 000 points pour acheter 50 vêtements, ce n'est pas vraiment l'objectif non plus.
Tout à fait. Et alors, tu disais qu'il y avait 90 marques qui étaient partenaires aujourd'hui. Dans ces marques, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles marques qui sont en tout cas issues de la mode responsable, donc qui sont déjà inscrites dans cette démarche d'éco-concevoir. À quel moment, en fait, on peut aller convaincre toutes les autres? Puisque si moi, je fais l'exercice d'aller donner mes vêtements, j'ai peut-être déjà moi-même acheté des vêtements qui sont éco-conçus ou je suis sensibilisée à cet impact sur la planète, sur l'environnement. Donc, je vais être vraiment dans cette démarche d'éco-concevoir, mais finalement, pas forcément d'éco-concevoir, mais en tout cas, d'acheter des matières, des produits qui sont éco-conçus. Mais toutes les autres marques qui se trouvent sur le marché ne font pas cet effort-là. Donc finalement, comment on arrive à passer au step d'après?
À aller chercher des nouvelles marques qui ne sont pas forcément... Oui, c'est vrai que nous, évidemment, nos premiers partenaires, c'est les marques 100% éco-responsables, tout simplement parce que pour elles, ça tombe sous le sens de proposer une solution comme la nôtre. Après, il se trouve, et aujourd'hui, on a la chance d'être contactés par de plus en plus de marques, donc on est hyper contents. Mais il se trouve qu'en fait, il y a trois choses qui rentrent en jeu. La première chose, c'est que déjà, les consommateurs demandent ce genre d'initiative de la part des marques. Aujourd'hui, il y avait un sondage qui était sorti il n'y a pas longtemps, 74% des consommateurs qui disaient qu'ils trouvaient normal que les marques de mode proposent une solution de reprise de leur textile usagé. Donc, il y a cette pression des consommateurs. S'ajoute à ça une pression qui est légale, qui vient en fait de la loi anti-gaspillage qui est passée en février 2020 et qui dit que voilà, au titre de la responsabilité élargie du producteur, charge aux marques de mode de mettre en place ce type de solution. Alors aujourd'hui, il y en a qui vont mettre en place plutôt de la seconde main, d'autres plutôt du recyclage. Mais voilà, les marques ont besoin en fait de mettre en place ce type de solution. Et tout simplement parce que de manière plus générale, aujourd'hui, tout, je pense que toutes les entreprises, toutes les marques ont besoin de prendre un vrai virage écologique, de prendre vraiment une vraie direction éco-responsable pour continuer en fait à vivre et à survivre et à attirer des consommateurs. Alors même si c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et du coup, je pense que simplement les plus grosses marques, ça prend beaucoup plus longtemps. Et moi, je vois quand on parle avec des plus grosses marques qui ne sont pas déjà 100% éco-responsables parce qu'elles doivent créer toute une plateforme de marque RSE qui du coup intègre à la fois donc nous, le recyclage, l'économie circulaire, mais aussi l'éco-conception, les emballages recyclés, une empreinte carbone réduite, peut-être moins de transport. Donc c'est quelque chose qui prend longtemps à construire, qui prend longtemps à faire. Donc les démarches prennent beaucoup plus de temps. Mais en fait, aujourd'hui, on est déjà en discussion avec des marques comme ça, tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de mettre en place ce type de solution pour leurs consommateurs.
D'accord. Et en l'occurrence, sur le site, on peut lire que si les vêtements terminent à la poubelle, les efforts des marques pour mieux produire et en faciliter le recyclage sont inutiles. Ça veut dire que finalement, chez Ordonné, on considère que c'est un acte qui doit venir du consommateur. Est-ce que ce n'est pas plutôt les marques qui doivent s'engager pour justement, est-ce que c'est elles qui produisent les vêtements?
Ah bah alors ce qui est sûr c'est que je pense qu'en fait l'engagement il est double, moi je suis assez persuadée, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a redonné vraiment construit comme ça et nous on travaille en priorité avec les marques de mode et on s'installe sur le site des marques de mode après sous la forme d'un plugin en fait pour que gagner en visibilité auprès de leurs consommateurs. Mais je pense qu'il y a un mouvement qui doit venir des marques de mode, de sensibilisation et de tout simplement proposer cette possibilité de recycler ses vêtements. Mais in fine, si le consommateur n'agit pas lui-même et ne fait pas l'effort de trier son placard et aller jusqu'au point de collecte pour donner ses vêtements, les marques pourront faire toutes les incitations qu'elles veulent, il se passera rien. Et d'ailleurs, d'où notre système de récompense qui est de dire, c'est un peu la carotte au bout de « donne tes vêtements et tu seras récompensé avec ce bon de réduction ». Mais voilà, pour moi, le mouvement, il est double et c'est aux marques de mode d'agir, c'est sûr. Et bien sûr que je pense qu'il y a tout aussi un travail sur l'éco-conception et on en parlait tout à l'heure, mais plus les produits seront bien conçus avec des matières nobles et des matières durables, plus ils seront faciles à recycler et plus du coup la filière va bien fonctionner. Mais en attendant, in fine, c'est le consommateur qui fait l'acte de déposer ses vêtements dans un point de collecte, de donner ses vêtements pour qu'ils soient recyclés et ça, personne d'autre pourra le faire à sa place.
Et puis je crois qu'il y a aussi un autre intérêt, le fait de recycler, c'est que plus il y aura de vêtements recyclés, plus le tri va pouvoir être automatisé et on va pouvoir industrialiser toute cette filière-là du recyclage.
Exactement, nous c'est ça notre objectif, c'est du coup, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est greffé à la filière qui existe déjà et qu'on n'a pas créé notre propre filière à côté, c'est plus les volumes de textiles collectés seront importants, plus il va pouvoir y avoir de la recherche et du développement sur des techniques de recyclage, plus on va pouvoir effectivement s'industrialiser. Aujourd'hui, tout le tri est fait à la main par des personnes comme toi et moi. Et du coup, ça prend énormément de temps, ça demande énormément d'énergie. Mais là, on travaille déjà sur des manières de l'industrialiser. Alors, c'est plutôt les pays scandinaves, la Suède, etc. Ils sont hyper avancés là-dessus. Mais voilà, plus en fait le volume de textile va être important, plus on va pouvoir effectivement travailler à des innovations comme dans tout en fait. Plus tu as une matière première de base qui est importante, plus tu peux faire de la recherche et du développement. Et c'est pour ça qu'on pousse vraiment à dire, en fait pour moi, aujourd'hui de la même manière que tous tes cartons, tu les mets dans la poubelle jaune, en fait tous tes textiles, tu devrais les mettre dans la bande de collecte parce qu'ils peuvent tous être valorisés et il faut qu'on arrive à créer ce changement d'habitude de consommation et que ça devienne une habitude de donner ses vêtements et de jamais, jamais les jeter à la poubelle.
Et est-ce que les marques ne devraient pas, elles aussi, mettre en place davantage de points de collecte ou les entreprises également? Parce que c'est aussi là où les gens se déplacent, même s'il y a des bornes, tu disais 40 000, je crois, points de collecte, donc finalement, il y en a quelque part, il y en a partout. Mais est-ce que ce n'est pas aussi sur les lieux de travail qu'on peut favoriser encore plus la démarche?
C'est vrai, et nous, on travaille, c'est marrant parce qu'on travaille de plus en plus justement avec des entreprises qui viennent vers nous et qui nous demandent de les aider à faire de la collecte dans leur entreprise. Donc, c'est plutôt sur des opérations, sur des courts temps, par exemple, pendant une ou deux semaines, où ils disent, rapportez vos sacs dans l'entreprise. Ça fonctionne hyper bien parce qu'effectivement, tu vas au bureau tous les jours, donc c'est facile de rapporter ton sac de vêtements quand tu vas au bureau. Après, c'est vrai qu'en fait, c'est aussi un peu compliqué à mettre en place pour les entreprises parce que ça crée un peu une logistique en plus. Il faut ensuite venir récupérer les vêtements au sein de l'entreprise pour les re-ramener aux associations. Mais moi, je suis assez d'accord qu'en fait, plus il y aura d'endroits pour donner ces vêtements, plus ce sera facile pour les consommateurs et plus du coup les vêtements seront donnés, donc que ce soit dans les entreprises ou aussi dans les boutiques des marques. Et ça, il y a déjà énormément de marques qui le mettent en place de plus en plus. Et nous, parmi nos marques partenaires, il y en a plein qui le mettent en place aussi. Donc,
Mais pas suffisamment encore aujourd'hui. Hein. Je trouve que c'est pas dans chaque boutique qu'il y a une borne à l'entrée pour donner.
C'est vrai, mais parce qu'en fait, c'est un peu une tannée en termes de logistique, dans le sens où il faut que dans ta boutique, tu aies la place de stocker des vêtements le temps qu'ils soient collectés, que quelqu'un vienne les récupérer. Mais après, et en fait, d'où nous, notre principe, c'est de dire, nous, en fait, on est 100% digital. Et pour les marques qui ne pourraient pas gérer cette logistique, soit parce que leur boutique est trop petite, ils n'ont pas les moyens nécessaires, nous, on est une solution, du coup, sans aucune contrainte logistique, puisqu'on redirige vers des points de collecte qui existent déjà. Mais effectivement, enfin, je pense que chaque marque va devoir développer des solutions et au fur et à mesure, on va voir de plus en plus de points de collecte dans les boutiques. Après, c'est vrai que ça reste quelque chose de long et complexe à mettre en place. Et en fait, plus il y a de logistique derrière, plus c'est compliqué à mettre en place.
Oui, mais ça, c'est sûr que de toute façon, quand on veut faire les bons gestes, ça reste toujours compliqué. Donc, je trouve que l'excuse est un peu de trouver. Même si, bon, derrière, il y a des vrais sujets logistiques, évidemment, des vraies contraintes. Mais c'est vrai que de toute façon, ça reste contraignant d'avoir ce genre d'opération. Donc, ça ne doit pas rester un obstacle. Mais bon, après, ça, c'est...
Non, mais je suis complètement d'accord que ça ne doit pas être un obstacle. Après, tu vois, la filière et effectivement le relais qui détient quasiment 2/3 des points de collecte, en fait, il y en a partout, vraiment. Donc,
on n'a pas d'excuses.
Il y a déjà ça, et je veux dire, marcher jusqu'au magasin le plus proche ou marcher jusqu'au point de collecte le plus proche, in fine, c'est un peu la même chose. Donc, tu peux très bien déposer dans la borne le relais et pas forcément dans ton magasin, quoi.
Et est-ce qu'il y a des zones géographiques dans lesquelles il y a plus de dons ? Est-ce que c'est plutôt les centres-villes qui sont où justement il y a un maillage plus important de bornes ? Ou est-ce que finalement partout on observe que les bornes sont aussi vite remplies ?
Alors c'est vrai qu'en centre-ville elles vont être plus remplies, mais il y en a aussi beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus d'endroits pour déposer ses vêtements et surtout les collectes sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus régulières et récurrentes, donc a priori les bennes ne vont pas se retrouver surremplies. Et sinon sur les personnes qui déposent leurs dons, tu vois, moi j'aurais pensé que ce serait beaucoup plus effectivement dans les centres-villes, dans les grandes villes. En fait, pas du tout, c'est vraiment dans toute la France, toutes les villes, toutes les régions, et même si effectivement peut-être en province, dans des villes plus petites, il y a peut-être moins de points de collecte. Pour autant, je trouve que c'est là-bas que les gens en fait, se déplacent le plus et donnent vraiment leurs vêtements. Et moi, je vois, je m'occupe beaucoup de du coup, valider tous les dons et vérifier que tous les dons ont bien été déposés et regarder les photos. Et ça vient de partout en France. Ça vient pas du tout que des centres-villes et des grandes villes.
D'accord. Et alors, parle-nous d'impact. Aujourd'hui, combien de dons ont été effectués ?
Aujourd'hui, on est quasiment à 6500 dons depuis le début de Redonner. Donc, ça fait 40 tonnes de textiles qui, du coup, ont pu être collectées et revalorisées.
En combien d'années ?
En, du coup, à peu près un peu plus d'un an et demi d'existence.
D'accord, super. Et vous avez une sorte de droit de regard un peu sur ces bornes pour savoir celles qui sont les plus actives, celles qui sont les plus remplies. On sait aussi que des bornes qui sont trop pleines, dans lequel on ne peut pas déposer les vêtements, donne peu envie finalement d'aller jusqu'au bout de notre démarche. Est-ce que vous avez un peu ce droit de regard-là, ou est-ce que finalement vous vous basez uniquement sur les données du réseau existant, et en fait votre action est plus d'aller donc du côté digital, mais d'aller démarcher les entreprises pour entretenir des contreparties et les sensibiliser aux bienfaits du recyclage?
Oui, c'est vrai que nous, notre cœur d'activité, c'est beaucoup plus du B2B envers les marques de mode, pour justement aller chercher de plus en plus de partenariats avec les marques et du coup pouvoir sensibiliser de plus en plus de marques et à travers elles de plus en plus de consommateurs. Et sinon, sur les points de collecte, on n'a pas vraiment un droit de regard. En fait, la logistique est déjà gérée par les associations. Et voilà, nous, il se trouve que, imaginons, j'ai des remontées clients d'utilisateurs qui vont me dire, voilà, ça fait 2 semaines que cette benne est remplie. Peut-être que je vais contacter l'association pour la prévenir. Mais en fait, sinon, eux gèrent déjà leur réseau depuis longtemps. Ils ont l'habitude. Il y a des collectes qui sont organisées de manière hebdomadaire, voire pluri-hebdomadaire, pour que les points de collecte ne soient pas remplis ou non plus dégradés. Donc, la logistique fonctionne déjà très bien et il n'y a pas vraiment besoin que nous, on intervienne en plus pour aider à cette logistique-là, même si c'est vrai et ça arrive et c'est vraiment malheureux, parce que c'est vrai que c'est hyper décourageant que tu te déplaces jusqu'au point de collecte et qu'en fait, il soit rempli. Et ça m'est déjà arrivé, et franchement, devoir rentrer chez soi avec les sacs de vêtements, c'est assez décourageant. Du coup, nous, par contre, ce qu'on fait, c'est on incite beaucoup les utilisateurs à nous envoyer des mails pour nous prévenir quand un point de collecte est rempli. Et à ce moment-là, on va le rendre inutilisable sur notre carte pendant une semaine, en fait, le temps que les vêtements soient collectés et du coup redirigés vers les autres points de collecte qui sont à proximité, sachant que, encore une fois, a priori, près de chez toi, il n'y a pas qu'un seul point de collecte, il y en a au moins deux ou trois, voire quatre, entre tous les containers et aussi les associations. Donc, tu n'auras pas trop de problèmes pour déposer ton don.
Et Redonner, c'est une application ou uniquement un site web ?
C'est du coup un site web, on n'a pas d'application et en fait on est à la fois un site web et à la fois une solution qu'on installe sur les sites e-commerce des marques avec lesquelles on travaille, des marques de mode avec lesquelles on travaille, sous la forme un peu d'un plugin comme une fenêtre pop-up, comme les chats que tu as déjà dû voir sur la plupart des sites. Donc nous on s'installe aussi sur ces sites-là pour du coup à la fois gagner en visibilité et permettre aux marques de proposer donc directement à leurs clients notre solution sans avoir à les rediriger vers notre site.
D'accord. Alors, votre business model, comment vous vous rémunérez ?
Nous, du coup, on se rémunère sur les partenariats qu'on tisse avec les marques de mode. Donc, en fait, ces partenariats-là, les marques nous rémunèrent sous la forme d'un abonnement mensuel pour, du coup, exploiter notre service, proposer donc à leurs clients ce service de collecte et de recyclage. Et aussi, du coup, nous, on leur propose tout un accompagnement sur la stratégie marketing et de communication pour vraiment développer leur plateforme RSE, mettre en avant cet engagement, mettre en avant cette solution. Et derrière l'abonnement, il y a aussi évidemment toute la logistique que nous on gère, de mettre à jour notre base de données, de valider tous les dons, vérifier toutes les photos, de gérer tout le service client.
Donc en fait, en termes de présence sur le marché, vous avez une sorte de monopole, vous êtes les seuls à faire ce genre d'action auprès des marques.
Alors effectivement, de faire ce qu'on fait exactement, ça veut dire de rediriger vers les points de collecte, dire que tu peux donner tous tes vêtements pour qu'ils soient revalorisés, être récompensés. On est vraiment les seuls à le faire et il n'y a aucune structure qui fait ça pour l'instant. Après, c'est quand même une économie qui est en plein boom et nous, on connaît plein du coup de boîtes avec lesquelles on est un peu copains maintenant, qui font plus ou moins comme nous, mais ça va plutôt être soit que sur la seconde main ou alors que sur la collecte en boutique, par exemple. Nous, on est les seuls à être du coup 100% digital et à proposer ce système de tu donnes vraiment tous les vêtements, à l'inverse de la seconde main qui va récupérer que des vêtements en très bon état, voire même que des vêtements avec encore l'étiquette de la marque dessus. Nous, on dit non, nous, on récupère tous les vêtements parce qu'en fait, dans ton placard, tu as a priori pas que les vêtements d'une seule marque, mais tu as plein de vêtements de plein de marques. Donc, si tu vas au point de collecte, autant donner tous tes vêtements et pas seulement une veste.
Oui, mais c'est beaucoup plus facile également. Dans l'acte de recyclage, ça simplifie clairement la démarche.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, nous, le truc, c'est de dire, c'est quand même compliqué. Et moi, je trouve ça super, les solutions de seconde main qui existent aujourd'hui. Vinted, la plus connue, qui, en fait, je pense, permet vraiment de créer une économie circulaire. Mine de rien, moi, ça m'est déjà arrivé de marchander pendant des heures pour vendre un t-shirt, qu'on me demande de le vendre à 2 euros, ce qui est absolument ridicule, l'envoyer par la poste, le déposer à la poste. Et après, la personne avait oublié d'aller le récupérer, donc le colis est revenu à moi. J'ai dû le réenvoyer. Bref, beaucoup trop compliqué. Nous, le truc, c'est de simplifier vraiment au maximum la démarche et de dire, voilà, tu fais ton sac, tu trouves ton point de collecte près de chez toi, tu vas déposer ton sac et en fait, voilà, c'est terminé.
C'est vrai que toutes ces plateformes de vente là, de seconde main, ça pose quand même une certaine limite parce que finalement, aller chercher un carton quand on l'a pas forcément déjà, oui. trouver un nouvel emballage, ensuite faire venir un camion, alors ça marche beaucoup par les points relais, c'est déjà, on va dire, une certaine logistique en moins, celle du dernier kilomètre en moins, mais quand même, c'est aussi faire un transport, acheminer des colis vers quelqu'un d'autre, ensuite potentiellement la personne va chercher en voiture son colis dans un carton qu'elle va ensuite rejeter en espérant qu'il soit bien mis dans la bonne poubelle. Au final, ça permet de donner une seconde vie aux vêtements, mais ça génère quand même aussi un certain impact carbone sur le transport aussi. Donc, c'est pas neutre, finalement.
Ah oui, c'est sûr. Mais effectivement, c'est pas du tout neutre. Et c'est aussi quelque chose qu'on essaye un peu de combattre en disant, encore une fois, nous, on travaille avec cette filière pour que du coup, il y ait un point de collecte près de chacun et que tu puisses t'y rendre à pied. Et qu'en fait, comme cette logistique, elle existe déjà de collecte, on s'est juste greffé à elle. Moi, c'est vrai que tu vois, il y a un truc que j'ai jamais compris, mais qui m'énerve un peu, c'est les marques qui vont te proposer de recycler tes vêtements ou en tout cas de donner une seconde vie à tes vêtements en leur envoyant tes vêtements par la poste. Je me dis, c'est quand même un peu absurde de les envoyer par la poste pour qu'en plus, in fine, la marque, elle les renvoie, elle, à cette filière où il y a le relais et les autres associations dedans. Donc, effectivement, ça crée de la logistique, du transport en plus. Et du coup, ça rejette du CO2 supplémentaire, ce qui est peut-être un peu absurde quand, en fait, tu as déjà tout un système qui existe et qui te permet de faire la même chose.
Dans cette manière de consommer beaucoup plus durable et de produire par derrière, il y a quand même un effet de mode aussi et un super effort de communication de la part des marques de véhiculer ce genre de message, alors qu'au final, la démarche n'est pas 100% green.
Ah, mais clairement. Après, nous, on n'est pas non plus... Enfin, moi, je n'ai pas envie d'être dans le bashing des marques qui ne sont pas 100% green et de dire qu'elles font du greenwashing. Je pense qu'en fait, toutes essayent d'avancer
chacun
petit
son
pas
niveau.
Par petit pas, ouais. Chacun à son niveau. Et moi, ce que je me dis, c'est... Tu vois, mine de rien, tu es une énorme marque qui existe depuis longtemps. Tu vois, même si je prends l'exemple d'H&M, qui sont un peu les premiers contacts sur ce genre de sujet. En fait, c'est tellement long de changer la manière dont tu produis, la manière dont tu travailles avec tes fournisseurs, dont tu travailles avec tes usines, que c'est normal que ça prenne énormément de temps. Et c'est vrai que ça peut paraître du coup très vite pour du greenwashing. Et je pense qu'il y en a eu énormément, qu'il y en a eu beaucoup. Mais qu'aujourd'hui, les consommateurs sont tellement informés sur ce genre de sujet, ou en tout cas de plus en plus, qu'en fait, les marques peuvent plus vraiment faire du greenwashing et on attend un vrai engagement de leur part. Et moi, j'aime bien, je ressors assez souvent ça, mais j'avais eu un cours qui, en plus, enfin, pas rien à voir, mais un cours de finance qui m'avait vraiment marqué et qui était hyper intéressant sur, justement, aujourd'hui, la finance verte et la nécessité pour les entreprises de prendre ce virage responsable, de prendre ce virage green, parce que sinon, en fait, elles vont mourir. Et du coup, parce qu'à la fois, il n'y aura plus aucun acteur de la finance et de la banque qui voudra croire en eux et investir en eux, plus aucun consommateur qui voudra consommer leurs produits. Donc, toutes les marques sont obligées d'avancer, toutes les marques sont obligées de prendre ce virage. Après, c'est vrai que pour certaines, ça va prendre énormément de temps et elles souffrent d'une très mauvaise image de base qui fait que chaque action qu'elles mettent en place va être décrédibilisée comme du greenwashing parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes. Mais moi, je suis plutôt encline à dire, en fait, heureusement que chaque marque avance et en tout cas se mobilise sur ce genre de sujet, même si ça va prendre du temps. Et c'est sûr que pour une toute jeune marque qui vient de se créer, c'est beaucoup plus facile pour elle, en fait, d'être déjà 100% éco-responsable que pour une marque qui existe depuis hyper longtemps sur le marché et qui du coup a été créée au moment de l'explosion de la fast fashion et dans ce modèle-là de la fast fashion et du coup pour qui aujourd'hui prendre ce virage green, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long.
Et en termes de consommateurs, il y a plutôt une question de génération également.
Ah, ça c'est sûr, c'est sûr qu'il y a vraiment une question de génération et moi je m'en rends compte, je pense que moi du coup j'ai 24 ans, je suis un peu à la génération charnière où on n'a pas non plus baigné dans le 100% éco-responsable, mais on est assez alerté par ce genre de sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous hyper touchés par le fait que telle ou telle marque, par exemple, quand il y a eu le scandale sur les Ouïghours, on a tous été extrêmement touchés. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté de consommer chez ce genre de marque et qui vraiment font faire un effort aujourd'hui pour consommer plus du Made in France, plus des belles matières. Et je vois même la génération en dessous de moi, quand je regarde mes petits frères qui sont beaucoup plus jeunes que moi, eux, pour le coup, sont vraiment super sensibilisés et c'est vraiment rentré dans l'habitude de chacun. Et je pense que ouais, il y a vraiment un tournant générationnel. Et là, tu vois, je faisais passer il y a 2 semaines des entretiens blancs pour préparer aux entretiens d'école de commerce. Et ils m'ont tous parlé d'écologie, d'éco-responsabilité, de vouloir s'engager pour la transition écologique. Moi, je pense que quand j'ai passé les oraux d'école de commerce, j'ai beaucoup moins parlé de ça. Et donc, mine de rien, alors qu'on n'a pas tant d'années d'écart que ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment au centre de toutes les consciences et au centre de tous les sujets et tous les débats. Et je pense que la plus jeune génération infuse aussi du coup la génération des plus vieux et des parents à prendre des nouvelles habitudes plus responsables et à du coup changer ses modes de consommation.
Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu penses que les politiques doivent également avoir un rôle beaucoup plus dur, d'être beaucoup plus exigeant auprès des marques, donc on leur a imposé par exemple soit un pourcentage de la production qui est made in France, soit un pourcentage de produits recyclés dans la composition même des produits. Tu penses qu'ils ont aussi leur rôle à jouer ?
Moi, je pense que les politiques ont un rôle à jouer. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de la loi anti-gaspillage qui est sortie en février 2020. Et là, il y a aussi eu le plan de relance, la PIA 4, il n'y a pas très longtemps, qui s'est donné comme objectif en 2030, 100% des textiles collectés pour pouvoir être valorisés. En fait, c'est très bien de donner des objectifs. Moi, je pense que maintenant... pour avancer plus vite, il faudrait que les politiques et le gouvernement soient un peu plus coercitifs. Alors, tu vois, là, depuis pas très longtemps, depuis pas très longtemps, maintenant, il y a des vraies amendes sur le sujet, notamment des invendus. Et du coup, les marques avancent beaucoup plus vite sur ce sujet. Maintenant, je pense qu'il faut un peu accélérer la machine et avancer encore plus vite. Et sur ces sujets de gestion de fin de vie des textiles, de recyclage, peut-être voilà, être plus coercitif, alors que ce soit sous la forme d'amende, que ce soit sous la forme, j'en sais rien, de taxes à payer ou autre chose, mais pour qu'on avance plus vite sur ce sujet. Et mine de rien, c'est vrai que dès que tu as un peu une pression légale sur tes épaules, évidemment que tu te mobilises, évidemment que tu vas beaucoup plus vite. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle à jouer là-dessus, à la fois au niveau français, mais je pense aussi vraiment au niveau européen. Là, nous, on peut vraiment bénéficier du fait que la filière, notamment du tri et du recyclage, elle se développe beaucoup en Europe. Je pense qu'on peut beaucoup jouer là-dessus et du coup, aller beaucoup plus vite sur ce genre de sujet si le gouvernement prend un peu le truc à bras-le-corps, même si j'entends que là, on est plutôt dans un contexte de relance économique et du coup, c'est assez dur parce que c'est très contraignant pour les marques de dire, voilà, il faut que vos vêtements soient made in France, éco-conçus, etc. C'est assez contraignant, donc à charge au gouvernement de... de se rendre compte de ce qui est possible de faire. Mais moi, je suis assez d'accord que plus la pression légale est importante, plus les entreprises vont se mobiliser, même si je pense que la pression légale n'est pas la réponse à tout et c'est pas que ça qui va permettre aux marques de se mobiliser.
Non, et puis en plus, les amendes, parfois les plus grosses entreprises, finalement, ça ne représente pas grand-chose de payer une amende.
Exactement.
Plutôt que de modifier tout leur système de production. Donc, c'est pas toujours évident de trouver le bon système qui permet d'équilibrer tout ça, mais c'est vrai que quand on voit Zara qui lance 24 collections par an, il y a plein de marques qui sont vachement à la mode, mais d'ailleurs auprès de générations beaucoup plus jeunes qui sortent des collections tous les mercredis, qui poussent quand même beaucoup à l'achat, ça fait quand même réfléchir. Hein.
Moi je suis d'accord, mais après tu vois, moi je me dis pourquoi pas, est-ce que le gouvernement finalement et les politiques n'ont pas plus devraient pas plus agir, pardon, sur les sujets, par exemple, investir dans la recherche et le développement sur le recyclage pour que, du coup, on puisse être beaucoup plus capable de recycler des fibres et que, du coup, comme on est plus capable de les recycler, qu'il y a plus de volume recyclé, en fait, les fibres recyclées, du coup, deviennent moins chères et donc plus compétitives. Est-ce qu'il faudrait pas subventionner les entreprises qui font du recyclage pour les permettre d'être plus compétitives et, du coup, de pouvoir vendre leurs produits et, du coup, pouvoir vraiment entrer en concurrence avec, par exemple, les fibres de coton ou d'autres fibres qui sont beaucoup moins chères aujourd'hui?
Et oui, parce que souvent l'éco-conçu est parfois plus cher, donc c'est ça qui est contraignant. Ouais.
C'est un vrai problème et nous, on a beaucoup parlé avec Le Relais, aussi GBTex, qui sont deux grosses du coup, entreprises asso dans le tri, et qui disent, voilà, nous aujourd'hui, on veut bien recycler plein de matières, en fait, si personne ne l'achète, bah, ça ne sert à rien, quoi. Et c'est ça qui est hyper dommage, et comme la fibre recyclée, du coup, coûte beaucoup plus cher à produire, elle est beaucoup plus chère, est-ce que, tu vois, franchement, j'en sais rien, et je ne sais pas vraiment d'où ça devrait venir, mais est-ce que le gouvernement ne devrait pas subventionner ces actions-là, investir là-dedans, investir aussi pour, du coup, industrialiser la filière du tri et du recyclage, investir pour qu'il y ait plus de points de collecte, investir ou subventionner pour que ce soit, par exemple, plus facile et moins coûteux pour des marques de mettre en place la collecte en magasin. Tu vois, est-ce que ça ne doit pas aussi venir par un peu des incitations de la part du gouvernement pour faciliter un peu la chose et du coup on accélère plus sur ce genre de sujet.
Ouais, carrément, et agir davantage en amont, parce que c'est vrai que finalement agir au bout de la chaîne, bah ça a assez peu d'impact. On voit aussi toutes les contraintes, on les a évoquées tout à l'heure. Et le résultat aussi, c'est que finalement le consommateur il se sent un petit peu culpabilisé, finalement pas forcément faire les bons choix, mais on n'a pas toujours le choix aussi. Enfin,
ouais,
il y a des contraintes de prix, il y a des contraintes logistiques, il y a des contraintes de plein d'autres choses. Donc, c'est pas toujours évident non plus de faire les bons choix. Déjà, j'ai l'impression que les consommateurs, ils sont quand même beaucoup martelés entre eux. Faut pas consommer du sucre, faut scanner, faut manger ci, faut manger ça, faut pas acheter ça. Au bout d'un moment, bon, bah, y a des choses qui coûtent plus cher, c'est plus contraignant, c'est pas évident. Et c'est, la responsabilité ne doit pas que incomber, je pense, aux consommateurs, de faire ces choix-là.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est bombardé de messages et très vite, tu peux être hyper culpabilisé parce que tu n'as pas fait les bons choix. Effectivement, en fait, acheter un vêtement 100% éco-conçu, ça coûte beaucoup plus cher, quoi. Et d'autant, je pense que c'est aussi d'autant plus dur qu'on a tellement été habitué. Donc, du coup, si je reste un peu dans l'industrie de la mode avec, du coup, toute l'industrie de la fast fashion et tout le modèle de la fast fashion, on a aussi tellement été habitué à tu changes de collection, effectivement, presque toutes les semaines, tu as des t-shirts qui coûtent 5 euros. Aujourd'hui, se dire qu'en fait, le vrai prix d'un t-shirt, c'est 30 euros, bah, ça demande un temps de réflexion, ça demande du coup de s'en rendre compte et de se dire, bah voilà, en fait, je vais plus acheter comme j'ai acheté avant. Et c'est vrai que c'est hyper long, je pense, comme transition. Et il faut pas croire que par de la culpabilisation, par du bashing, tu vas accélérer les choses. Et je pense, au contraire, ça peut même freiner ou refroidir certaines personnes de se dire, voilà, en fait, j'ai rien fait comme il faut, rien ne va dans mon dressing, oh là là, j'ai que des t-shirts à 5 euros. comment je vais m'en sortir ? Non, et effectivement, ça, je pense que oui, la responsabilité ne doit pas du tout incomber qu'aux consommateurs, mais beaucoup plus aux marques. Et je pense que le gouvernement doit les aider en fait à proposer, tu vois, des vêtements du coup éco-conçus, recyclés, peut-être à moindre prix, ou en tout cas faciliter la production, faciliter peut-être le retour de savoir-faire en France. Tout ça, enfin, c'est pas le consommateur qui va s'en occuper, quoi.
Oui, et puis encourager aussi la transparence, parce qu'on ne se rend pas forcément compte que le t-shirt qu'on a acheté, il a fait 40 fois le tour de la Terre, que l'industrie textile, c'est celle qui pollue le plus d'eau. Quand on pense aussi parfois comment on peut changer son impact sur la planète, on va peut-être se dire, quand on fait ses résolutions, là c'est bientôt la période, début d'année, en disant, bah, je sais pas, je vais peut-être moins arroser mon jardin, enfin je sais pas, ou faire attention à ci, à ça. Mais en fait, par exemple, un t-shirt, c'est peut-être celui qui va consommer le plus d'eau, finalement, la fabrication. Et on n'a pas toujours conscience, en fait. On ne sait pas forcément exactement comment les choses sont produites et quel est l'impact réel de ce qu'on peut acheter. Donc, la transparence pourrait être aussi un axe pour faire changer les mentalités.
Ah oui, complètement. Moi, je suis persuadée. Et ce qui est bien, c'est, tu vois, j'ai l'impression que de plus en plus de marques agissent sur cette transparence et sur dire effectivement d'où viennent leurs vêtements, comment ils ont été faits, quel est leur impact sur l'environnement. Et c'est vrai que plus t'es informé, en fait, plus ça va être facile pour toi de changer tes modes de consommation. Moi, si je reste, du coup, dans là où nous, on agit sur, du coup, le don de vêtements et la revalorisation des textiles, tu vois, le relais, ça fait très longtemps que ça existe. Je pense qu'ils ont une communication qui est assez pauvre et en fait, personne n'est au courant. Ils souffrent en plus d'une image un peu mauvaise. Et moi, le nombre de messages auxquels je réponds, de gens qui me demandent « Mais en fait, que deviennent vraiment mes vêtements quand je les dépose chez le relais ?» Et quand je leur explique du coup comment fonctionne la filière, ce que vont devenir leurs vêtements, ils sont du coup très rassurés. Et aussi parce que j'ai été transparente avec eux, ils sont beaucoup plus en confiance. Et ils se disent « Bah ok, je vais aller donner mes vêtements parce qu'en fait, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne. Maintenant j'ai compris ce qu'allaient devenir mes vêtements. Maintenant je sais aussi que ma chaussette, même si elle est trouée, en fait je peux la donner et j'ai pas besoin de la mettre à la poubelle. » Et il y a vraiment un manque d'informations là-dessus. Et nous, on se bat du coup pour sensibiliser sur ces sujets parce que effectivement, les acteurs de la filière l'ont jamais vraiment fait et qu'il n'y a jamais vraiment eu, que ce soit de la part des marques de mode ou de la part des acteurs du tri et du recyclage, un travail de sensibilisation dans les années passées. Là, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se mobilise et je pense que comme les consommateurs demandent de plus en plus cette transparence, les marques vont beaucoup plus communiquer là-dessus, les associations aussi, mais ça demande du temps. Et je pense que pour les marques, c'est aussi très difficile puisqu'elles s'exposent vraiment. Mmh. Et tu sais jamais si c'est le bon choix en fait d'être transparent ou s'il n'aurait pas mieux fallu un peu rien dire. Je pense que c'est un choix qui est difficile, mais qui en fait est nécessaire parce que c'est vrai que plus tu es informé en tant que consommateur, plus ça va être facile pour toi de faire, entre guillemets, les bons choix.
Puis en plus, on est quand même relativement au démarrage de toute cette démarche-là. C'est pas du tout une démarche qui est mature. Mmh. Donc c'est vrai que pour les marques, c'est quand même aussi difficile de dire, mais si je suis le premier à être transparent et à dire que mes vêtements, ils ont consommé des tonnes d'eau, les consommateurs vont peut-être se tourner vers d'autres marques. Alors que si effectivement, l'ensemble des acteurs avaient cette démarche-là, chacun est au même niveau et les consommateurs peuvent faire leur propre choix aussi, mais en connaissance de cause. Et là, la démarche, elle est différente.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, si tout le monde agit dans le même sens, c'est beaucoup plus facile et parce que du coup, tu perds pas d'avantage concurrentiel et tu perds pas en positionnement face aux autres marques. Et effectivement, tu vois, on parlait du gouvernement tout à l'heure. Est-ce que c'est pas aussi sur ce genre de sujet qu'ils doivent agir en forçant un peu la transparence et en forçant, de montrer ce que vraiment est ton vêtement pour que au moins tout le monde soit au même niveau sur ce genre de sujet. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine-là, plutôt dans la food et l'industrie. Des produits... j'arrive plus à parler, pardon. Des produits de la viande, des laitages, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu la même chose sur les textiles avec des étiquettes vraiment transparentes, avec une traçabilité du produit, avec une transparence sur du coup d'où ça vient, etc. Là, je pense que c'est là-dessus aussi que le gouvernement peut agir parce que comme ça, toutes les marques seront au même niveau car toutes les marques auront la même obligation.
Ouais, en effet. Et alors, quelle est la vision de Redonner ? Comment vous comptez vous développer et où est-ce que vous aimeriez emmener cette belle solution digitale ?
Nous, notre vision, c'est que notre solution, en fait, elle est assez facilement scalable dans plein de pays. Nous, on a envie de se développer parce qu'on n'est pas fermé du tout. On parlait tout à l'heure des marques avec lesquelles on travaille. Certes, aujourd'hui, la plupart sont 100% éco-responsables. En fait, nous, à terme, si on peut travailler avec toutes les marques, on est plutôt pro à dire « faisons-le ». Parce que notre objectif, c'est de toucher en fait un maximum de consommateurs pour que du coup, tous les consommateurs prennent cette nouvelle habitude de donner leurs vêtements pour qu'ils soient revalorisés plutôt que les jeter. Donc déjà, toucher un maximum de marques et avoir de plus en plus de marques dans notre portefeuille de marques partenaires pour du coup toucher de plus en plus de consommateurs, mais aussi du coup adresser de nouveaux territoires et de nouveaux pays. Là, du coup, on a commencé à travailler sur ce sujet, surtout sur des pays qui nous ressemblent. Donc en fait, le premier pays sur lequel on a travaillé, c'est la Belgique, qui a un système de collecte qui est très similaire au système français et qui est aussi un pays majoritairement francophone, donc c'est facile pour nous d'aller s'y développer. Donc là, du coup, si je peux te l'annoncer là, en janvier, on va ouvrir, donc redonner en Belgique. Super. C'est vraiment super parce que du coup, on est capable d'adresser des nouveaux territoires. Et là, tu vois, sur les pays européens, il y a plein de pays en fait où le système de collecte est similaire au système de collecte en France, avec des associations et des entreprises qui sont regroupées dans une filière, avec des points de collecte faciles à identifier. Et nous, à partir du moment où on identifie les points de collecte, on peut s'ouvrir dans ce pays-là. Et donc, il y en a beaucoup en Europe qui fonctionnent comme ça, mais il y en a beaucoup aussi dans le monde entier. Tu vois, à Dubaï, ça fonctionne pareil, au Canada, ça fonctionne pareil, au Japon, ça fonctionne pareil. Nous, on est assez ambitieux en se disant, voilà, nous, si on peut s'ouvrir dans le monde entier, faisons-le. Et cartographions le monde entier des points de collecte pour récompenser tous les dons de vêtements et pour, en fait, in fine, que, voilà, en fait, chez toi, t'as un sac de tri où tu mets tes vêtements que tu vas aller donner. Une fois qu'il est rempli, tu vas le déposer à la benne de collecte et du coup, t'arrêtes de jeter tes vêtements. Mais voilà, l'ambition, c'est de se développer le plus possible en commençant, du coup, par la Belgique, là, en janvier. Et après, dès qu'on pourra se développer, bon, après, ça demande, effectivement, tu te développes en Angleterre, en Italie, il faut parler anglais et italien, donc il faut trouver des personnes qui sachent aussi gérer tout le service client qu'il y a derrière dans ces langues-là, mais nous, plus on peut se développer, plus on va se développer. Ouais.
Donc, une première extension géographique à l'étranger, et en France, vous êtes fixé un nombre de marques partenaires à avoir, ou un nombre de pourcentages, par exemple, de marques qui serait sur votre site et qui serait partenaire de l'opération. Vous avez fixé des objectifs très tangibles.
Alors, on n'a pas fixé un pourcentage, mais effectivement, on a plutôt fixé un nombre de marques partenaires, mais en fait, qui tend vraiment à évoluer et à se démultiplier d'année en année, tout simplement aussi parce que notre business model est basé sur les partenariats qu'on tisse avec les marques de mode. Donc nous, pour pouvoir se rémunérer, pour pouvoir grandir et pour pouvoir du coup étendre notre solution, on a besoin d'avoir de plus en plus de partenaires. Donc voilà, là l'objectif, c'est rapidement atteindre les 200 marques partenaires et ensuite au moins doubler ce chiffre, voire plus chaque année, pour du coup adresser un maximum de marques. D'autant que, tu vois, moi, je connaissais pas trop l'industrie de la mode avant d'arriver chez Redonner, et je suis assez choquée du nombre de marques qui existent. En fait, il y a un nombre incroyable de marques qui existent sur le marché, qui sont plus ou moins connues. Donc, nous, on a vraiment un grand marché devant nous. Et comme notre solution s'adapte, je pense, à toutes les marques, peut-être le seul segment qu'on peut pas vraiment toucher, c'est le luxe-luxe, qui va plutôt travailler, eux, sur la reprise de seconde main, la réparation, etc. Et tu vas peut-être pas donner ton sac Chanel dans une borne Le Relais. Mais sinon, on peut adresser tous les segments de marques, et en fait, toutes les marques, que ce soit le luxe premium ou que ce soit le mass market. Donc, il n'y a pas vraiment de limite à cette extension. Et nous, voilà, on s'est fixé, du coup, ouais, c'est ça, de doubler, voire tripler le plus vite possible notre nombre de marques partenaires.
Ouais, un vrai marché devant vous. Ouais. Et ta vision à toi, personnelle, d'un monde meilleur, ça serait quoi?
Grande question, mais ma vision personnelle d'un monde meilleur, moi, je pense qu'en fait, chacun aujourd'hui doit faire... Moi, déjà, la première chose que je pense, et j'en suis de plus en plus convaincue depuis que maintenant je suis redonnée, c'est qu'en fait, chacun à son échelle est capable de faire énormément de choses, et que parfois, tu as l'impression que ce que tu as fait, c'est un tout petit pas et c'est une goutte d'eau dans l'immensité des problématiques environnementales qu'on a adressées aujourd'hui. Mais en fait, tu as déjà énormément agi, et je pense que les changements... prennent énormément de temps, mais tu vois, moi, là, mes copains en peuvent plus de moi parce que je les rabâche toute la journée avec « donnez vos vêtements dans les points de collecte, recyclez vos vêtements, arrêtez de les jeter ». En attendant, aujourd'hui, ils le font et ça a marché, et ils sont un peu convaincus que, voilà, chacun à leur échelle, ils peuvent agir du coup pour un monde meilleur. Moi, en fait, je suis assez de plus en plus convaincue par ce modèle d'économie circulaire où, du coup, tu t'appuies plus sur les ressources de la planète, mais en fait, tu arrives à vivre avec tes propres ressources en les régénérant à chaque fois au fur et à mesure. Alors, c'est pas du tout applicable forcément à toutes les industries et à tous les modèles, mais ce modèle d'économie circulaire, je pense que dans plein d'industries, que ce soit le textile, que ce soit l'électronique aussi et plein d'autres, c'est vraiment le modèle de l'avenir, et d'être capable, en fait, presque d'être autosuffisant, dans le sens où tu n'as plus besoin de prélever tant de ressources que ça sur, sur la planète et sur la Terre. Tu n'as plus besoin de recouper des forêts entières de bois, de re-aller chercher des terres rares qui coûtent hyper cher à aller sortir et extraire de la Terre. Mais en fait, tu es capable de toujours recréer des nouvelles choses à partir des matières déjà existantes. Et je pense que ça, c'est vraiment un super modèle et qu'il faut vraiment creuser et sur lequel il faut vraiment se diriger pour du coup être capable d'avoir un impact qui est vraiment amoindri sur la planète. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça, le monde de demain, que par exemple, j'entends beaucoup de personnes parler de décroissance, déconsommation. Moi, je suis pas persuadée que ce soit ça le modèle de demain. Je pense qu'on est tellement dans une économie du plaisir et tellement dans une envie de consommer, que dire demain, tout le monde arrête de consommer, tout le monde s'assied dans un coin et en fait, tu vis avec les mêmes trucs pendant 40 ans, j'y crois pas trop. En revanche, dire voilà, j'ai envie d'acheter quelque chose de nouveau, mais ça veut dire que du coup, j'ai donné quelque chose d'ancien pour qu'en fait, ils soient recyclés, revalorisés et qu'ils permettent de créer cette chose nouvelle. Ça, c'est vraiment un vrai modèle qui, pour moi, est super vertueux et qui permet, du coup, de voir venir le monde de demain de manière beaucoup plus rassurante.
Ouais, je réinjecte à chaque fois que je veux reconsommer.
Finalement. Exactement, c'est ça. C'est, en fait, on est dans une boucle, on est dans un cercle qui est hyper vertueux et redonné est aussi construit sur ce modèle-là. C'est normal de vouloir consommer et effectivement, même si aujourd'hui, moi, je suis toujours hyper impressionnée par les gens qui arrivent à arrêter de consommer. Et je pense que d'ailleurs, même tous, en fait, on consomme quand même beaucoup moins qu'avant et beaucoup moins que les générations précédentes. Mais c'est normal par les phénomènes de mode et même plein d'autres choses de vouloir un peu se faire plaisir, avoir des nouvelles choses. Mais c'est ça, si tu veux profiter de quelque chose de nouveau, donne quelque chose d'ancien pour que du coup, cette chose ancienne permette de créer cette chose nouvelle dont tu vas pouvoir profiter.
Super. Et alors toi, tes gestes green du quotidien, alors mis à part évidemment avoir le sac au fond du placard pour collecter les vêtements au fur et à mesure.
Mes gestes green du quotidien, je pense qu'il y a, moi j'ai fait un peu un vrai effort sur déjà les emballages depuis un petit bout de temps, d'essayer, bon alors j'en suis pas non plus au point d'avoir que des bocaux en verre dans ma cuisine avec des trucs en vrac, mais franchement c'est quelque chose que j'aimerais réussir à faire, mais en tout cas d'essayer de moins consommer des choses avec 6 000 emballages dessus, je trouve que ça c'est un peu problématique, et tu vois quand je vois parfois des fruits et légumes emballés, alors l'exemple que je déteste c'est les mangues qui sont emballées dans 3 trucs, t'as l'impression que c'est un diamant et en plus 3 emballages plastiques, je me demande mais pourquoi il y a autant de plastique autour de ce truc, ou alors les paquets de gâteaux où chaque gâteau est emballé dans un sachet en plastique individuel, c'est rien qui m'énerve plus, donc essayer de limiter un peu les emballages c'est effectivement un axe. Et après, un autre axe que j'aimerais bien développer, c'est pourquoi pas être un peu plus DIY. Alors, pour l'instant, j'y suis pas encore, mais par exemple, faire ta pâte toi-même plutôt qu'acheter de la pâte industrielle, faire ta lessive toi-même plutôt qu'acheter de la lessive. Je pense que ça aussi, c'est un vrai moyen de limiter un peu son impact sur la planète. Et sinon, c'est vrai, je te disais il y a 2 secondes que je croyais pas en la déconsommation, mais mine de rien, j'achète quand même beaucoup moins de vêtements, surtout dans l'industrie du textile. Je pense que j'ai un peu pris conscience que tu peux très bien vivre avec les vêtements que tu as et tu n'as pas besoin d'avoir des nouvelles fringues toutes les 5 minutes. Et c'était ma grand-mère qui m'avait dit, et j'adore cette phrase, elle me dit, en fait, toi, tu as vu que tu t'étais habillée pareil qu'hier, personne d'autre ne va s'en rendre compte.
Et alors aujourd'hui, comment t'es habillée, dis-nous.
Comme hier.
Ah bien, parfait.
Mais en fait, elle a tellement raison. Enfin, même moi, quand je vois mes amis, quand je vois les gens au bureau, je me souviens pas comment ils étaient habillés la veille. Donc, ils pourraient s'habiller tous les jours pareil. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment, je m'en rendrai un peu compte. Mais et elle a trop raison là-dessus. Et du coup, ça m'a un peu fait prendre sens. Moi, j'étais un peu une shopping addict avant, je pense. J'aimais bien aller faire du shopping, acheter plein de fringues. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup moins. Et au contraire, je regarde mes vêtements, je les chéris et je me dis, mais en fait, ce fut que j'ai acheté, je l'adore. Ça ne me dérange pas de le remettre 6 fois par semaine parce qu'en fait, oui, bah, il est hyper beau, il me va hyper bien. Bah, pourquoi en acheter un autre, quoi?
Quelles sont tes sources d'inspiration pour progresser ou tes recommandations? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme, je sais pas, lecture, podcast ou autre pour progresser sur le sujet?
Alors, je pense que moi, en lecture, je suis assez pauvre. Après, en podcast, moi, j'aime bien le podcast de Nouvelle Empreinte qui est assez, assez intéressant là-dessus. Et sinon, moi, un truc que j'adore, mais ça parle pas toujours de ces sujets-là, c'est les reportages sur Arte. J'en bouffe, mais beaucoup trop. Enfin, j'en regarde énormément, énormément. Alors, je dis pas qu'ils sont tous bien. Je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être pas forcément toujours au bout des choses. Mais Arte a ce truc cool de adresser les sujets avec, je trouve, pas mal de transparence quand même, et à voilà, vraiment essayer de décortiquer les choses, de se déplacer, d'aller filmer aussi. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des images, je pense que j'ai besoin d'avoir les visuels devant moi pour un peu que ça me fasse prendre conscience. Donc, ouais, les reportages Arte, c'est quelque chose que je regarde énormément. Et sinon, moi, j'ai aussi de la chance d'avoir autour de moi beaucoup d'amis qui sont assez engagés sur les sujets d'éco-responsabilité, voilà, changer un peu ses modes de consommation. Et du coup, c'est eux aussi mes sources d'inspiration pour m'aider, voilà, à moi consommer mieux et à moi changer mes habitudes.
Génial. Ben, merci pour ce partage. Je crois qu'il est temps qu'on passe au quiz. Tu es prête?
Je suis prête.
Alors, je vais te énoncer une série de questions avec un choix à chaque fois, un choix A ou un choix B. L'idée, c'est que tu puisses répondre par soit la réponse A, soit la réponse B, le plus spontanément possible. Voilà, est-ce que tu es prête?
Ok, je suis prête.
Allez. Pour te déplacer, plutôt Air France ou Blablacar?
J'aurais tendance à répondre Blablacar, mais en fait, j'ai jamais pris de Blablacar de ma vie.
D'accord. sur le principe, alors.
Mais sur le principe, oui, parce que en fait, déjà, je me déplace assez rarement à l'étranger et en France, pour moi, ça n'a aucun sens de prendre l'avion. Donc plutôt Blablacar.
Très bien. Est-ce que tu es plutôt Black Friday ou Make Friday Green Again?
Ah ben, Make Friday Green Again, ouais. 100%. Et d'ailleurs, on a lancé une campagne dans cette veine-là, la semaine du Black Friday. Et effectivement, bah, tu vois, c'est ce que je te disais, j'essaie quand même de moins consommer. Et tu vois, Black Friday, cette année, bah, j'en ai, entre guillemets, pas du tout profité.
Très bien. En été, pour te refroidir, acheter un climatiseur ou planter un arbre?
Pas planter un arbre, si j'avais un jardin. Je pourrais me mettre à l'ombre sous mon bel arbre. En appartement, malheureusement, tu ne peux pas trop faire ça. Donc, j'avoue que j'ai un climatiseur chez moi.
Si tu n'as rien dans le frigo, plutôt McDo ou Too Good To Go?
Ah, mais alors, c'est trop drôle parce que franchement, je pense qu'il y a 2 semaines, je t'aurais répondu McDo directement. Aujourd'hui, je vais répondre Too Good To Go, que j'ai vraiment, vraiment découvert il n'y a pas longtemps. Là, j'ai emménagé dans un nouvel appart il y a 2 mois et j'ai découvert en fait que c'est incroyable Too Good To Go. Il y a des milliards de trucs autour de chez moi et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de prendre les trucs de Too Good To Go parce qu'à chaque fois, c'est trop bon et c'est pas du tout cher, donc c'est trop bien.
Génial. Le lundi, t'es plutôt steak frites ou veggie Monday?
Ça dépend, mais c'est dur comme question. Je vais répondre Veggie Monday parce que si c'est à l'heure du déjeuner, j'ai pas trop faim. Donc un petit bol végé m'ira beaucoup plus qu'un gros steak frites hyper lourd qui va me peser sur le ventre toute la journée.
Et avant de dormir, plutôt Netflix ou un bon bouquin?
Un bon bouquin. Alors ça pour le coup, pas d'hésitation là-dessus. Moi, je suis une grande, grande littéraire dans l'âme. J'ai fait un bac L, une prépa littéraire, et là, tu vois, sur ma table de nuit, je pense qu'il y a une pile de 4 bouquins qui n'attendent que d'être lus, donc ça, ouais, sans hésitation, un bon livre.
Est-ce que tu en auras un à nous recommander, un qui t'a marqué dernièrement?
Un qui m'a marqué dernièrement, bah là, je viens de commencer un livre qui s'appelle « Les neiges bleues » de Piotr Bernatsky, qui est franchement super bien. Sinon, dans mes livres préférés, et si je devais recommander mon auteur préféré, c'est Michel Houellebecq.
Très bien. Avec un titre en particulier?
Avec un titre en particulier. Franchement, c'est dur parce qu'ils sont tous tellement bien, mais je vais dire Plateforme, que personne ne connaît et qui est du coup assez peu lu, alors qu'en fait, il est absolument incroyable. Et l'écriture de Michel Houellebecq est vraiment, vraiment très forte.
Ah, super. Je mettrai tous ces titres-là dans les notes de l'épisode qu'on pourra retrouver
trop bien.
Sur le site. Génial. Merci pour ton partage, de tes gestes green, de ta spontanéité dans tes réponses. Merci aussi pour avoir présenté, redonné, pour avoir donné envie, recycler les vêtements, et puis pour ton partage aussi de ta vision de la mode et en quoi on peut tous contribuer à un monde meilleur. Merci beaucoup, Philippine, pour cette interview.
Mais merci à toi surtout de m'avoir donné cette opportunité incroyable. Je pense qu'effectivement aujourd'hui on a besoin de vraiment parler de ces sujets-là, de sensibiliser un maximum de personnes. Donc merci beaucoup de m'avoir reçu et merci pour cet échange qui effectivement était très intéressant et très très agréable.
Bon, ben, plaisir partagé. Merci encore Philippine, je te dis à très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup.
Merci, ciao.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter. Je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-te2re.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.